Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de démarrer la semaine avec vous pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Avec le journal des médias, le journal de la culture, ce sera à 9h puis à 10h. Des conseils de sortie, de séries et de lecture et des invités. Et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre et nous voir en vidéo sur le site europe1.fr. Notre infomédia, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté. Le scoop de l'année était en fait un tuyau percé. Pourquoi un tel ratage? À qui la faute? Je recevrai dans ce studio en exclusivité Stéphane Albouy, le directeur du Parisien, le journal qui a sorti l'info en premier, et également Étienne Lénart, chef du service enquête-reportage de France Télévisions. France Télé et Étienne Lénart qui se sont publiquement excusés. Autre invité, Emmanuel Kessler, le patron de Public Sénat, qui fait sa rentrée avec des émissions surprenantes comme un chat sur Twitch. Oui, la chaîne de jeux vidéo. Enfin, André Manoukian, le pianiste, juré emblématique de la Nouvelle Star, qui démarre un cycle de conférences sur scène au titre croustillant, le chant du Périnée. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Comme tous les jours, avec cette Fender Précision, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
On démarre avec vous évidemment par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end?
Alors on va commencer par hier soir. Hier soir, c'est TF1 qui a eu les faveurs du public avec sa soirée Ciné Dimanche. La une qui proposait le blockbuster américain inédit Kong Skull Island avec notamment Samuel L. Jackson. 5 200 000 Français, 25% du public, ont passé la soirée devant ce film qui met en scène le légendaire King Kong. Vous savez, l'espèce de grosse bestiole avec plein de poils.
Ah mais oui.
France 2 est deuxième dans un tout autre genre avec une rediffusion de la comédie française Paulette avec la regrettée Bernadette Lafont. D'ailleurs, l'un des derniers films dans laquelle la comédienne disparue en 2013 est apparue. Et ce sont 2 700 000 téléspectateurs, 12% du public, qui ont fait travailler leur zygomatique devant la 2 hier. La troisième place est pour France 3 avec de nouveaux épisodes de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. Une fois encore, la série a pu compter sur son socle de fidèles. 2 500 000 personnes étaient au rendez-vous, 11,1% de part d'audience. Enfin, en quatrième position, au pied du podium, on retrouve M6, la 6 qui proposait un nouveau numéro de Capital, le magazine de Julien Courbet. Hier, le thème était « Qualité de vie, taxes locales, que font les maires de notre argent ?» Une enquête composée de 3 reportages qui a été suivie par 2 200 000 curieux, 10,3% du public. Et un chiffre aussi à vous signaler, un énorme carton d'Arte qui proposait une rediffusion du film Dans la brume électrique avec Tommy Lee Jones. Et ce sont 1 900 000 téléspectateurs, 8,5% du public qui ont passé la soirée devant Arte. C'est vraiment un énorme score pour Arte.
Le film de Bertrand Tavernier, si je me souviens bien. Vous vouliez également revenir sur les audiences de samedi soir. France 2 a passé une soirée un peu compliquée.
Oui, et avant d'aborder le cas de France 2, un mot pour vous dire que samedi soir, c'est encore une fois France 3 qui s'est classée en tête des audiences, la 3 qui s'est offert un joli carton avec le téléfilm inédit Le Mur des Souvenirs, suivi par 4 300 000 Français, 22% du public. En face, Danse avec les Stars, le divertissement de TF1 est toujours largement distancé. Samedi, l'émission spéciale Céline Dion, qui s'est soldée par l'élimination de Hugo Philippe, vous ne savez pas qui c'est moi non plus, n'a rassemblé que 3 300 000 personnes, 17,3% de part d'audience.
Il n'est pas méchant, il informe.
C'est un score moyen donc, et avec son téléfilm, France 3 met 1 million de téléspectateurs dans la vue à TF1. Et j'en viens donc à France 2. Ouais. L'événement samedi soir, c'était le lancement du nouveau Grand Barnum, La Course des Champions, présenté par Teddy Riner notamment sur la 2. Et vendredi, vous receviez d'ailleurs Jean-Louis Blot, le producteur, ouais, et Laurie Tillman pour évoquer ce nouveau jeu. Et son lancement était très attendu puisque La Course des Champions avait fait l'objet d'un vaste plan promo. Et à l'arrivée, petite performance pour La Course des Champions, à peine 1 600 000 curieux au rendez-vous, 8,7% du public, un score faible, évidemment décevant, mais toutefois, le tableau n'est pas complètement tout noir, puisque le jeu a bel et bien permis à France 2 de capter un public plus jeune et plus proche de celui de TF1, ce qui était l'un de ses objectifs.
En revanche, Pierre, ce public plus jeune n'est pas resté pour suivre On n'est pas couché qui suivait.
Et oui, France 2 s'est privé d'une partie de son public traditionnel, et c'est Laurent Ruquier qui en a fait les frais en deuxième partie de soirée. Samedi soir, On n'est pas couché est tombé à 698 000 téléspectateurs et 10% de part d'audience. Alors 10% pour On n'est pas couché, c'est vraiment très faible, puisque depuis la rentrée, la moyenne tournait autour de 16%, et c'est d'ailleurs la pire performance historique de l'émission en dehors de la spéciale Cannes de l'année dernière.
Merci beaucoup Pierre Desereaux, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Place au journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Cyril.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors après un week-end très chargé et pas seulement sur les routes, que se passe-t-il dans le village des médias ?
Au menu ce matin, un ratage généralisé, des enchères à ne pas rater, l'inratable Francis Le Tellier qui arrive sur Public Sénat et LCP et un prix pour un reportage sur le Cachemire que vous ne voudrez pas rater.
Et évidemment ce matin on commence par le fiasco de la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès.
En l'espace de quelques heures, entre vendredi soir et samedi matin, les médias français sont passés de l'incroyable information venue d'Écosse à un incroyable raté généralisé et des unes annonçant l'arrestation du tueur présumé de sa femme et de ses quatre enfants en 2011 à Nantes à ceci.
En mon nom, je voulais vous présenter mes excuses ce matin. Pendant plusieurs heures hier avec mes invités, nous avons sûrement beaucoup trop fantasmé sur cette arrestation, sans attendre, c'est vrai, les résultats des tests ADN, mais en se basant tout de même sur des affirmations, je dis bien affirmations, de la police écossaise concernant ces fameuses empreintes de l'homme en question. J'espère sincèrement ce matin que cet épisode n'a pas altéré ce lien de confiance qui existe entre nous et cela depuis très longtemps.
Les excuses de Thomas Lecartier, journaliste de CNews, et il fait bien de parler de ce lien de confiance car il risque bien d'être fragilisé. Si les médias sont loin d'être les seuls à blâmer dans cette pitoyable affaire, ils présentent tous les attributs des parfaits responsables. Je vous rappelle ces chiffres du baromètre annuel publié par le quotidien La Croix. Seulement un Français sur deux fait confiance à ce qu'il entend à la radio. C'est 44% pour la presse écrite et 38% pour la télévision.
Donc encore moins.
Encore moins, absolument. Et ces trois médias sont tous en fort recul année après année. Effectivement, de quoi s'inquiéter. Un sujet sur lequel vous reviendrez, Philippe, dans quelques minutes avec vos invités.
Oui, on recevra juste après ce journal Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien. C'est Le Parisien qui a sorti l'info en premier. C'était le vendredi à 20h40. Également Étienne Lénart, le chef du service enquête et reportage de France Télévisions. Étienne Lénart qui s'est publiquement excusé au nom de sa chaîne le samedi soir sur France 2. Et puis Cyril, une fois n'est pas coutume, vous allez également nous donner quelques éléments d'audience du week-end. Les spectateurs se sont rués sur les chaînes info pour suivre ce feuilleton du pont de Ligonnès.
Vendredi, entre 22h et minuit, il y avait en moyenne un peu plus d'un million de Français réunis sur les quatre chaînes d'info françaises, dont évidemment la plus de la moitié sur la seule BFM TV. Quant à samedi, jour de mea culpa, donc, les audiences étaient toujours dopées à l'effet XDDL. 3,5% de part de marché pour BFM, qui est en général autour des 2%.
Et là, Cyril, attention, les enchères sont lancées.
C'est reparti pour un tour. L'UEFA, qui supervise les championnats de foot européens, lance aujourd'hui même son appel d'offres pour les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à compter de la saison 2021. Des droits aujourd'hui détenus par RMC Sport, mais qui attisent les appétits d'à peu près tout le monde. Canal+, beIN Sport, Altice et Mediapro qui diffusera le championnat de France de foot à partir de septembre prochain et peut-être même, qui sait, Amazon. L'entreprise américaine s'est offert il y a quelques mois une partie des matchs de Roland-Garros. Alors, tout est possible.
Alors, on ne sait pas qui va l'emporter, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va faire un gros, gros chèque.
Oui, parce qu'Altice débourse déjà 350 millions d'euros pour diffuser les rencontres des compétitions européennes. Autant dire que c'est pour une année, hein, 350 millions d'euros par an.
Quasiment 1 million par jour.
Voilà, c'est ça. Exactement.
C'est complètement fou. Un million d'euros par jour.
T'es bon en maths.
Comment,
super bon en maths.
Je me tenais.
Autant dire que c'est au moins à ce prix-là, 350 millions, que vont se négocier les prochaines enchères, voire à beaucoup plus si un des acteurs décide de vouloir écraser la concurrence. Comme le rappelle Le Figaro dans un article publié vendredi, diffuser du foot n'a jamais coûté aussi cher qu'actuellement. En 2000, les droits du foot européen rapportaient à l'UEFA un peu moins de 2 milliards d'euros de la part des diffuseurs. C'était trois fois plus à la fin de l'année dernière, 6 milliards d'euros, donc un sacré pactole.
Et puis Cyril, on va recevoir ce matin Emmanuel Kessler, le patron de Public Sénat, et justement, voulait nous parler d'un petit nouveau sur les chaînes parlementaires.
Un petit nouveau que les téléspectateurs connaissent bien. Francis Le Tellier fait ses premiers pas ce soir sur Public Sénat et sa sœur jumelle LCP. Le journaliste de France 3 reprend ce soir les rênes de Audition Publique, coproduite donc par les deux chaînes parlementaires et Le Figaro. Entouré de trois journalistes, d'un député et d'un sénateur, grande tablée donc, Francis Le Tellier va tenter d'apporter sa petite touche personnelle à une émission présentée jusqu'ici par Michel Grossior. On l'écoute nous dire comment il voit les choses. Il répond à notre journaliste Louise Bernard.
Ce que je vais apporter à cette émission, c'est, j'espère, un style qui commence à être connu et reconnu. Hein, des questions à la fois directes mais simples, parce que je pense que la politique a besoin d'être simplifiée. Et les chaînes parlementaires sont aussi là pour ça. Et de se dire, bon, voilà, on parle de tel ou tel texte de loi ou tel texte de réforme, on en est où exactement? Et j'espère que dans cette émission, on remettra, je dirais, les choses dans l'ordre. Voilà.
Que celles et ceux qui suivent Francis Letellier sur France 3 se rassurent, le journaliste demeure le présentateur de Dimanche Politique sur France 3, le dimanche évidemment. Audition publique, ça commence donc ce soir à 19h sur le canal 13 de la TNT. Et la première invitée de Francis Letellier est la ministre de la Justice, la ministre Jacqueline Gourault.
Oui, il me semble que la ministre de la Justice, c'est Nicole Belloubet. Ce week-end, les correspondants de guerre étaient à l'honneur avec la remise des prix Bayeux, prix qui récompense les meilleurs reportages.
10 prix ont été décernés samedi, tous les formats sont récompensés, presse écrite, radio, vidéo, nous avons choisi de nous intéresser. Plus particulièrement au prix accordé aux deux reporters, Clément Gargouillot et Shafat Farouk, pour leur film « Cachemire, les visages de la colère », produit par Babel Presse pour Arte Reportage. On en écoute un court passage.
Moi, je n'ai pas peur de parler. Est-ce que nous, Cachemiri, nous sommes des criminels ? Voilà ce que je veux dire à l'Inde. Continue à nous détruire, à nous brimer. Bientôt, c'est nous qui prendrons les armes pour nous défendre. Bientôt, ce seront les femmes qui se joindront à la lutte. Si Dieu le veut, l'indépendance est proche. Nous allons sacrifier bien plus que ça. Azadi, l'indépendance est proche. Si Dieu le veut, elle viendra.
Alors, on a demandé à un des deux co-réalisateurs, le français Clément Gargouillot, ce qu'il avait voulu raconter avec son reportage.
C'est une région dont on parle peu en France, alors que finalement la France a énormément de relations avec l'Inde et qu'on met souvent à l'honneur ce pays comme la plus grande démocratie du monde. Et pour moi, ce que je voulais révéler, c'était en fait les lignes de faille de cette démocratie à travers une région qui est aujourd'hui encore sous le coup d'un blackout total des communications. C'est-à-dire que la population ne peut pas communiquer entre elles, ils n'ont pas de téléphone, pas d'internet. Donc on enferme en fait une population dans cette espèce de vase clos pour essayer de mieux la contrôler. Et pour moi, c'est une faille de la démocratie.
Clément Gargouillot, interrogé par Alexandre Omar. Cachemire, les visages de la colère, double lauréat des prix Bayeux, prix télévision grand format et prix image vidéo. Vous pouvez retrouver le reportage sur YouTube. On vous met le lien dans la page du Journal des médias sur europe1.fr.
Je viens d'apprendre qu'il y avait une page du Journal des médias. J'en suis ravi. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière, pour ce tour de l'actu des médias. On vous retrouve demain.
Absolument.
Dans l'info média du jour, on va revenir sur le mea culpa des médias après le fiasco sur la fausse arrestation de Xavier Dupont de Lignonès vendredi. Vous nous en parlez avec vos invités, Philippe Vandel, et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, ce titre sans point d'interrogation, occupe toute la une du Parisien samedi matin, avec la photo du fugitif, un scoop et un numéro qui s'annonce historique. Ils l'ont été, mais dans le mauvais sens, car dans la matinée de samedi, on a appris que l'info donnée à 20h40 sur le site du Parisien et reprise en boucle par les chaînes d'info et les radios, était en réalité un tuyau percé. L'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow était un retraité et non pas le fugitif le plus recherché de France. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Parisien. Merci d'être avec nous à ce micro ce matin. Merci de ne pas vous être caché. Et d'ailleurs, hier, vous avez signé un édito d'excuses dans le journal. Étienne Lénart à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service enquête-reportage de France Télévisions et vous êtes excusé au nom de la chaîne samedi aux 20h de France 2. Alors pour comprendre ce cas d'école, à l'heure où on ne parle que de fake news et où tous les professionnels mettent en avant la lenteur et le recoupement, je voudrais qu'on revienne sur la chaîne de décision. Que s'est-il passé vendredi soir, Stéphane Albouy ?
Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter. Ce n'est pas une question de se cacher. Je crois qu'on va parler beaucoup de confiance ce matin. Ouais. De confiance avec nos lecteurs et de confiance avec nos sources. Et là, je viens au cœur du sujet et à la question que vous me posez. Vendredi soir, le journal est en train d'être bouclé. D'ailleurs, il est en voie de finalisation. À la une du journal de samedi, il devait y avoir la question kurde. Et un petit peu avant 20h, entre 19h45 et 20h, je suis alerté par un des membres du service des faits divers, des informations générales, on appelle ça chez nous, qui est un service très réputé, avec 12 personnes qui travaillent en permanence sur ces questions, qu'une première information vient d'arriver, venant d'une source très sérieuse et habituelle, selon laquelle Xavier Dupont de Ligonnès venait d'être arrêté en Écosse.
Une source française, une source écossaise ?
Une source française. On démarre avec une source française. Évidemment, dans ce cas-là, ça crée une petite effervescence, vous l'imaginez, dans la rédaction. Et plusieurs autres journalistes vont se mettre à travailler sur le dossier. Au total, dans la soirée, 6 journalistes du Parisien vont travailler, couper, recouper, aller sur le terrain aussi, pour étayer le dossier. En l'espace de...
Pardonnez-moi, aller sur le terrain c'est quoi ?
Là
c'est...
c'était Limay en l'occurrence.
D'accord.
Puisqu'on y viendra après, il y a eu des perquisitions.
Ouais.
Et puis préparer le départ pour Glasgow dans le même temps, puisque tout ça se construit au fil des minutes. Et je dirais qu'en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, trois journalistes, dont d'ailleurs un des responsables du service, vont réunir plusieurs sources, cinq, qui vont toutes confirmer à l'affirmatif, ouais, véritablement, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, j'insiste sur un point, parce qu'on a entendu beaucoup de choses différentes sur ce qu'est une source, combien y en avait-il réellement. Les personnes qui nous ont informés ce soir-là sont des personnes qui travaillent dans des services différents, à des endroits géographiques différents, ouais, en France, ouais, je dirais plus sur le terrain de l'enquête dans la région de Nantes, dans les services centraux, à des niveaux hiérarchiques différents. Ouais. Et donc, oui, ce sont vraiment cinq sources totalement différentes.
J'ai bien compris, mais ce qu'on dit, c'est que ces cinq mêmes personnes étaient reliées à une seule et unique source en Écosse, si j'ai bien compris.
Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, et d'ailleurs, j'ai des nouveaux éléments là-dessus à vous communiquer qui ne sont pas inintéressants. Il y a eu des échanges directs entre les Écossais et certains enquêteurs. D'accord ?
Et il y a eu. Enquêteurs français ou enquêteurs du Parisien ?
Enquêteurs français
de la police
et
française.
Enquêteurs écossais. Et il y a eu aussi des transmissions très officielle, dont on a récupéré un certain nombre de traces, entre le poste de coordination de la police française en Angleterre, qui a transmis des telex à l'affirmatif. Nous, on a la trace d'un document qui a été publié, d'ailleurs je crois qu'il a été donné hier dans une émission télévisée également, qui a été transmis à 22h38. Et à 22h38, vendredi soir, les autorités, les plus hautes autorités policières françaises, reçoivent encore des documents qui complètent en disant « voilà, il a été arrêté, nous transmettons au juge d'instruction, etc. » Et ça se construit comme ça au fil de la soirée.
D'où l'absence de conditionnel, combien de même vous saviez que les prélèvements ADN et les comparaisons ADN n'avaient pas encore été effectuées. C'est pour ça que vous le mettez à l'indicatif.
Et nous avons écrit dans le papier que les comparaisons ADN seront nécessaires in fine pour compléter ça. Mais compte tenu vraiment des comparaisons, des empreintes, de ce qui nous est dit à ce moment-là et de la multiplicité des sources, à cette heure-là, il n'y avait aucun doute.
L'info sort à 20h40 sur le site du Parisien. À 20h01, Le Monde sort l'info. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté en Écosse, à l'indicatif. L'AFP sort également l'info à 21h01. Ces deux références, Le Monde, l'AFP, même trois, si on ajoute Le Parisien, Étienne Lénard, même question pour vous. À quel moment vous pensez que ces sources sont fiables et vous y allez ?
Nos confrères, les journaux, ne sont pas des sources pour nous. L'agence France Presse, qui est une des plus grandes agences mondiales, avec énormément de moyens pour vérifier, peut être une source. Elle est assez souvent d'ailleurs. Mais nos sources, ce sont, de la même façon que ce qui vient d'être dit, ce sont des enquêteurs.
D'accord.
Nous avons récupéré cette information un tout petit peu avant 20h vendredi. Nous avons commencé à la vérifier. Nous avons choisi de ne pas la donner dans le journal de 20h vendredi.
Pour quelle raison ?
Parce que nous n'avions pas encore suffisamment de confirmation pour être certain de pouvoir la donner en l'état. Et c'est vers 21h, 21h05 que nous avons considéré que les cinq sources également que nous avions consultées étant toutes affirmatives, mais se référant, comme vous le disiez, toutes à la même information en provenance de la police écossaise, que nous avons aussi essayé de joindre, que nous n'avons pas pu joindre directement à cette heure-là, nous l'avons joint plus tard dans la soirée, nous avons considéré à partir de 21h qu'il était possible de donner cette information à l'affirmatif, en disant en même temps qu'il faudrait attendre les confirmations ADN. On y reviendra peut-être, mais c'est intéressant de savoir que sur une information aussi importante, on entend Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. On n'entend pas forcément, quand on est auditeur, téléspectateur, qu'il faudra confirmer. Voilà.
Je vous montre quand même le titre, oui, le titre du Parisien que je suis en train de montrer, mais à l'image, les gens peuvent nous voir sur europe1.fr, ça ne souffre pas de distanciation.
Non, mais bien sûr, mais je ne conteste pas le fait qu'il y a une erreur, hein. Je ne suis pas en train d'essayer de trouver des alibis, je dis juste que toute la soirée et tout le samedi matin, on disait il faudra qu'il y ait confirmation ADN, et on l'a tous pas vraiment entendu.
Voilà pour les faits. Il y a eu l'emballement, ensuite le rétropédalage. On en parle juste après ça.
Oui, l'homme arrêté vendredi à Glasgow en Écosse était un simple retraité pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès. Dans l'infomédia du jour, on continue à parler de l'emballement médiatique suscité par cette arrestation dans un instant sur Europe 1.
Heures, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pendant près de 20 heures, un retraité francilien a été confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire et être relayée par la plupart des médias durant toute une nuit? On en parle ce matin dans l'Info Média du jour avec vos invités, Philippe, Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France, et Étienne Lénart, chef du service enquête reportage de France Télévisions.
Pardon de le dire, mais c'est un reportage d'Europe 1 qui a mis la puce à l'oreille. Comme les journalistes avaient le nom de la personne qui, soi-disant, s'était fait voler son passeport par Xavier Dupont de Ligonnès et un retraité de Limay, Céline vient de le dire, dans les Yvelines, Jean-Gabriel Bourgougeois, qui travaille pour nous, est allé sur place faire une enquête de voisinage. Et justement, il est tombé sur un voisin qui connaissait très bien la personne arrêtée à Glasgow.
Ça fait 30 ans que je le connais, ce mec-là. C'est un ami. Il n'a rien à voir. Je veux dire, même le mec, s'il a pris X années en plus, il n'a rien à voir avec cette tronche-là. C'est aberrant. Et ses allers-retours en Écosse, ben c'est normal. Il a une maison en Écosse. Il vit là-bas avec son épouse. Et puis, régulièrement, il revient en France. Et il est parti, effectivement, hier matin, comme il fait d'habitude. Il rentre en Écosse. Sa femme l'attendait à Glasgow. Et quand on a appris ça, on est resté sur le cul, quoi. Donc on a appelé et elle a dit bah oui, voilà, ils l'ont arrêté. J'ai pas plus de nouvelles, rien. Elle était effarée, quoi. Ils ont pris l'ADN là, et donc ils vont avoir apparemment assez rapidement les résultats. Là, ils vont s'apercevoir de la boulette, c'est pas possible.
Il est 6h15 sur l'antenne d'Europe 1. Stéphane Albouy, vous disiez avoir envoyé un enquêteur à Limay. Il n'a pas trouvé la même info. Vous avez continué à persister sur le fait que Dupont de Ligonnès était vraiment l'homme arrêté.
Non, vous avez rappelé quelque chose d'important. Vous diffusez à 6h15.
Ouais.
Moi, je boucle et j'imprime mon journal à 23h.
Oui, mais il y a le site internet.
Mon reporter est sur place à 22h30, dès le début des perquisitions. Mais à ce moment-là, vous avez un cordon policier qui nous empêche d'accéder. On y retourne le lendemain matin, et évidemment, dans la matinée, on va avoir un papier qui est exactement de la même tonalité que celui que vous diffusez, avec l'incrédulité des voisins qui ne comprennent pas et qui nous expliquent effectivement toutes les différences physique d'abord, entre le suspect et leur voisin.
Alors à 6h30, c'est l'heure du premier journal sur France 2. On va écouter les titres et le premier sujet, évidemment, c'est le titre principal de la matinée.
Il est 6h30, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 2, le journal, les titres tout de suite avec Camille Brunet.
Un homme arrêté à l'aéroport de Glasgow hier, il pourrait s'agir de Xavier Dupont de Ligonnès, selon la police écossaise. Les empreintes digitales concordent, il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants en 2011 à Nantes.
Il pourrait s'agir, le titre est au conditionnel. Tout de suite après les titres, il y a le reportage qui démarre.
L'aéroport de Glasgow en Écosse, un peu avant 21h hier soir. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa famille en 2011, est interpellé après 8 ans de cavale.
Le titre était au conditionnel, mais le reportage est à l'indicatif. Xavier Dupont de Ligonnès a bien été arrêté. Étienne Lénart, réaction.
Manque de prudence dans la façon dont la chose est présentée le lendemain matin, clairement, puisque en fait, dans la nuit, nous avons commencé à être alertés, y compris par nos sources, d'ailleurs, policières, les mêmes sources qui nous avaient donné l'information le vendredi soir,
ouais,
disant, on pense qu'il y a un souci dans la façon dont les empreintes digitales ont été comparées. Et donc, manque de prudence dans ce commentaire, même si la façon dont il est présenté dans le lancement est au conditionnel. Donc, c'est toujours, quand vous avez des heures et des heures d'antenne sur différents supports, toujours, voilà, en l'occurrence, on aurait dû le mettre dès le départ au conditionnel. On aurait même dû, mais c'est facile à dire a posteriori, dès le vendredi soir, dire que la police écossaise a annoncé qu'elle avait arrêté un homme, voilà.
Mais en même temps,
qu'elle présentait comme Xavier Dupont de Ligonnès.
Exactement. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous racontez tous les deux, messieurs, c'est les sources qui vous appellent. Il y a des sources qui appellent les rédactions à tour de rôle. Comment ça se passe ?
Non, mais c'est une question très importante, j'allais y venir.
Alors,
parce que très, très simplement, il faut expliquer à vos auditeurs, une source, c'est pas quelqu'un qui est dans une tour de contrôle de l'État, de la police ou de la magistrature, et qui nous appelle, justement. Une source, c'est quelque chose qui se construit au fil des années. Nos reporters, sur France Télévisions, comme aux Parisiens, lorsqu'ils ont un échange sur une enquête de cette nature, de cette sensibilité, ils l'ont avec des personnes qu'ils connaissent, encore une fois, depuis des années. C'est des gens qui se suivent, c'est des gens qui, entre lesquels la confiance est tissée.
Ça, je l'ai bien compris,
mais
j'ai mal posé ma question. Je veux dire par là, qu'est-ce que la source dit ? Tiens, je travaille très bien avec les gens du Parisien, je respecte leur travail, idem avec France 2, il vous appelle, ensuite il appelle Étienne Lénart à la 2, ensuite il appelle Le Monde, et ensuite il appelle l'AFP.
D'abord, nous avons très souvent des sources qui sont différente, d'abord, et c'est une bonne chose. Et ensuite, ce qui s'est passé vendredi soir, c'est que vous avez des enquêteurs qui travaillent depuis des années sur ce dossier, qui font preuve depuis des années, parce qu'il y a eu plein de fausses alertes, d'une prudence extrême. On a cru retrouver son squelette à un moment donné, on a cru qu'il était dans un monastère. Bref, il y a eu des vérifications et elles se sont avérées fausses. À chaque fois, ces personnes et ces enquêteurs ont dit attention. Mais là, vendredi soir, pour une raison que l'on continue à, je dirais, décortiquer aujourd'hui et à essayer de comprendre, les mêmes personnes nous disent ça y est, on l'a, c'est le bon. Et donc, ce changement de tonalité est quelque chose d'essentiel qu'il faut bien comprendre. Donc, multiplicité des sources, certitude, et certitude apportée par des personnes qui sont des experts et qui suivent ce dossier depuis des années.
Et peut-être que dans l'emballement médiatique, d'autres points ont été oubliés. On en parle juste après ça.
Décryptage du mea culpa des médias après l'arrestation d'un innocent vendredi. Innocent pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. On y revient juste après ça dans l'info média du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Vendredi soir, on pense avoir arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, le fugitif le plus recherché de France. Les médias en font leur une avant de déchanter le lendemain midi quand l'ADN a parlé. Mea culpa des médias depuis, on continue à en parler dans l'info média du jour avec vos invités, Philippe, Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France, et Étienne Lénard, chef du service enquête-reportage de France Télévisions.
C'est toujours facile de dire les choses après coup, mais certains éléments auraient pu mettre la puce à l'oreille. Par exemple, l'information provenait de la police de Glasgow. Ils avaient seulement procédé à des comparaisons d'empreintes digitales, pas de test ADN. Il fallait pour cela la présence de la police française et ça n'allait pas traîner. À 21h30, vendredi soir, BFM TV donnait cette information.
Les policiers français sont en route pour confirmer ou non cette information.
Donc la police française était en route pour Glasgow, sauf que le lendemain à midi, la même chaîne BFM TV donnait cette information.
Seul un test ADN pourra permettre de lever définitivement le doute. Ça, c'est le travail de la police française qui est en route pour Glasgow pour effectuer ce test ADN.
Donc si on en croit BFM TV, ça fait plus de 14 heures que la police française est en route pour Glasgow. Ils y sont allés en deux chevaux avec un ferry. Au-delà du sourire, est-ce qu'ils brodent, est-ce qu'ils supputent, ou est-ce que vous, Étienne Lénard, Stéphane Albouy, vous aviez la même info?
C'était les informations que nous donnait la police française la veille au soir.
Donc, ils vous disaient, on est en route pour Glasgow.
Oui.
Et le lendemain matin...
C'était sans doute une façon de parler et une façon de présenter les choses. Effectivement, je crois que cette information a été relayée un peu partout.
Et je crois que de manière prosaïque, comme tout le monde, ils ont eu un problème pour trouver un vol.
Pour trouver un ?
Un vol.
Ah oui ?
Ben oui, tout
d'accord.
Simplement.
Autre, il y avait quand même un détail sujet d'étonnement. Comment se fait-il que des infos fuitent, et pas d'autres ? Par exemple, on avait le nom de la personne, je ne vais pas le donner ici, mais on le connaît. Comment c'est possible ? Comment ça se fait ? Et l'autre information qui est très étrange, c'est quand on va voir le voisin, on vient de m'informer que Jean-Gabriel Bourgeois, qui a fait le reportage pour Europe, qui est passé à 6h15, en fait, son enquête de voisinage, il l'avait faite déjà la veille. Le voisin nous apprend, ou un voisin qu'on a vu sur BFM TV nous apprend que la personne arrêtée avait un doigt en moins. Comment se fait-il que cette info ne fuite pas, ne sorte pas? Quelque chose d'aussi important, d'aussi essentiel.
Alors là, pour le coup, sur le voisinage, encore une fois, nous, je ne sais pas à quelle heure était présent votre reporter sur place. Nous, entre 22h30 et 23h, lorsqu'on se rend sur place, les voisins sont inaccessibles. Ça a été possible plus tard dans la soirée. Et donc après, c'est sorti au fil de la nuit et au fil de la matinée. Voilà. Mais simplement, encore une fois, il y avait une question d'accessibilité des témoins.
Non mais je voulais dire, si une personne est arrêtée dans les bureaux de la police en Écosse, qu'il a un doigt en moins, c'est une info qui devrait sortir. C'est pas anodin, un doigt en moins, surtout quand on s'occupe d'empreintes digitales.
Absolument, mais ça nous
mais
est
ça
pas
aurait même dû sortir par la police écossaise dès le vendredi.
Exactement, voilà. C'est ce que je disais.
Et visiblement, ça n'a pas été communiqué aux
enquêteurs français. La police écossaise n'a communiqué que samedi tard dans l'après-midi. Elle a refusé
de faire une conférence de presse.
Je pense que chez eux aussi, il doit y avoir quelques explications en ce moment.
Stéphane Albouy, d'un mot, quel impact sur les ventes du Parisien? Vous avez survendu, surperformé ce numéro samedi?
Alors sur les ventes, je ne peux pas vous dire parce qu'on a un retour qui est à J+5, J+6. Sur les ventes en kiosque. Très clairement, on le sait, c'est une affaire qui passionne les Français. Vous parliez tout à l'heure des audiences télé. Sur notre site internet, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde vendredi soir et samedi d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à expliquer et décrypter.
Quels enseignements tous les deux allez-vous tirer de cette affaire? Est-ce que vous allez changer des procédures en interne, Étienne Lénard?
Sur la façon de vérifier les informations, je ne pense pas. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Cinq sources qui nous donnent cette information, nos enquêteurs travailleront de la même façon dans les mois qui viennent. Après, ce qui est important pour nous, c'est la confiance. Confiance avec nos sources, et je peux vous dire que nos sources sont ébranlées par ce qui s'est passé et mortifiées par ce qui s'est passé, comme nos rédactions sont mortifiées par ce qui s'est passé, mais confiance aussi avec nos téléspectateurs, et c'est le plus important, et c'est pour ça que dès samedi, nous avons considéré qu'il était nécessaire de s'excuser sur toutes nos antennes.
Merci beaucoup Étienne Lénard, chef du service enquête reportage de France Télévisions. Merci également Stéphane Alboui, directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France. Merci d'avoir été présent ce matin sur Europe 1 en direct avec nous.
Merci. Notre prochain invité est le président-directeur général de Public Sénat, Emmanuel Kessler. Il vient nous parler de sa rentrée et on l'accueille dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et Philippe, on accueille Emmanuel Kessler.
Bonjour Emmanuel Kessler.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le PDG de la chaîne Public Sénat. Vous partagez le canal 13 de la TNT avec votre cousine LCP Assemblée Nationale. Question rituelle, quoi de nouveau en cette rentrée pour vous, pour votre chaîne?
Une belle rentrée pour Public Sénat. D'abord, on a revu notre environnement visuel,
ce qu'on appelle
l'habillage de la chaîne. Le logo aussi, pour lui donner un caractère plus moderne, être plus dans la relation avec nos téléspectateurs, dans le lien affectif, parce qu'ils reconnaissent notre sérieux, mais on a besoin aussi de les séduire et on va le faire davantage. Et puis des nouveaux rendez-vous.
Alors avant les nouveaux rendez-vous, vous avez un nouveau slogan, une nouvelle baseline, comme disent les gens du marketing, vous pouvez la dire?
Des questions à toutes vos réponses.
Alors moi, ça m'a pris 10 secondes pour comprendre qu'en allemand, on attend des réponses à toutes les questions. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous fait marrer, des questions à toutes les réponses? Pourquoi ce slogan un peu absurde, contre-intuitif? Qu'est-ce qu'il signifie?
Pas absurde, en fait, ça a beaucoup de sens. L'idée, c'est que... Et je savais que ça allait vous plaire, d'ailleurs.
Oui.
Parce que, voilà.
C'est ma cam, comme on dit.
Voilà, l'idée, c'est qu'on est la chaîne qui questionne, qui essaye d'aller plus loin, plus au fond des choses, de ne pas se contenter, justement, du fracas, des tweets et des infos de courte durée, pour être la chaîne du temps long, qui essaie de montrer la complexité du monde dans lequel on vit, être dans la nuance. Voilà, la pédagogie de la nuance et pas le binaire, c'est tout blanc ou tout noir. On vient de s'en apercevoir à partir d'une actualité récente, il faut se donner le temps d'aller plus loin dans le questionnement. Et c'est ça qu'on essaye de dire de façon un petit peu malicieuse, oui c'est vrai.
Je vais vous poser la question suivante en musique. Vous connaissez évidemment le nouvel habillage sonore de Public Sénat. Quoi de nouveau dans les programmes?
Alors dans les programmes, il y a deux grands rendez-vous quotidiens. La matinale qui s'appelle Bonjour chez vous, qui est animée par une journaliste très talentueuse. Un talent qui est né à Public Sénat il y a 13 ans. Elle a fait tout son parcours. Elle a commencé comme stagiaire et aujourd'hui elle présente un de nos programmes phares. Elle s'appelle Oriane Mancini. Et c'est une matinale qui est très différente des autres. D'abord parce qu'elle se fait en partenariat avec la presse quotidienne régionale et des télévisions locales. Et puis parce qu'on essaie de faire le lien permanent entre l'actualité locale et l'actualité nationale. Ce matin, nous avions le ministre Adrien Taquet qui est venu présenter en avant-première son plan pour l'aide à l'enfance maltraitée. Et il l'a fait interviewer par Oriane et un journaliste de la presse quotidienne régionale du groupe Ebra.
Alors, vous allez bientôt fêter vos 20 ans, comme votre binôme LCP. Vous avez décidé de donner un petit coup de frais à quelqu'un qu'on connaît ici, le youtubeur Hugo Travers, alias Hugo Décrypte. Surtout l'émission qui s'appelle « Questions aux sénateurs ». C'est un titre classique, mais la forme est totalement nouvelle.
Oui, on a été les premiers à créer une émission politique sur la plateforme Twitch. Vous savez, c'est une plateforme de jeux vidéo.
Racontez.
Qui n'est pas du tout faite pour ça.
Ah non, c'est pas pour les sénateurs.
Et on s'est dit, nous, à Public Sénat, ce qu'on veut, c'est essayer d'intéresser à la politique, l'activité aussi du Parlement et des sénateurs en particulier, des jeunes qui viennent plus naturellement à la télévision. Donc on est allé chercher la plateforme où ils sont, c'est Twitch, c'est une plateforme de jeux vidéo. On l'a fait avec Jean Massier, qui est un streamer, comme on dit, qui a créé une chaîne qui s'appelle Acropolis, qui est une chaîne de commentaires politiques. Il a toute une communauté de gens qui interagissent avec les invités. Et on a créé un rendez-vous d'une heure où un sénateur vient présenter son action. On va démarrer dans 10 jours avec Samia Ghali, sénatrice élue de Marseille, vous le savez.
Ouais.
On recevra bientôt le président du Sénat,
Gérard
Larcher. Et puis, c'est donc Jean Massier qui anime cette émission. Alors, c'est plus Hugo Pravert, parce qu'on le connaît bien, je sais que vous le connaissez bien ici, mais il part aux États-Unis. Mais c'est un autre YouTuber qui est David Cech, qui initie les jeunes à l'histoire, qui participera avec Jean à cette émission.
Une question, va qui veut sur Twitch, où est-ce qu'il faut leur demander l'autorisation? Où est-ce que Twitch a dit, super, des sénateurs chez nous, on prend?
Eh bien, écoutez, c'est Acropolis qui a discuté avec Twitch, et Twitch était, je crois, très heureux de voir qu'il y avait une émission politique. Encore une fois, on a été été les premiers et on va être aussi les premiers à retransmettre cette émission désormais sur la TNT, puisque jusqu'à présent elle était diffusée que sur Twitch, et comme c'est une réussite, on va la diffuser aussi sur la TNT.
Ça sera quand et à quelle heure, vous le savez?
C'est le mercredi à 17h.
Les auditions dans l'affaire Benalla ont été un gros succès pour votre chaîne. Vous avez les chiffres de Public Sénat pour cet événement?
Pour les auditions Benalla, on a battu notre record historique d'audience. On a fait plus de 4% de part de marché lors de la première audition d'Alexandre Benalla. On n'a pas de chiffres réguliers, vous savez, comme les grandes chaînes, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas se le permettre d'un point de vue financier. Et puis, ce n'est pas notre mission. On n'est pas dans la course à l'audience. Mais en revanche, quand on le veut, on peut avoir quelques indicateurs. Et en effet, on s'aperçoit qu'il y a eu un réflexe Public Sénat pour des contenus forts où on a une valeur ajoutée. Je pense, par exemple, que l'audition du ministre Castaner la semaine dernière a aussi été un succès pour la chaîne.
Et je précise que 4%, c'est un très gros chiffre, puisqu'on donnait tout à l'heure les chiffres. BFM TV a réuni 3,5% de l'audience, donc moins que vos 4% pour la spéciale sur Xavier Dupont de Ligonnès. Un dispositif spécial prévu pour les municipales?
Oui, bien sûr. Alors, je peux vous l'annoncer, on va commencer au mois de janvier en particulier par toute une série de documentaires, 4 week-ends consacrés à des documentaires sur des portraits de grands élus politiques, les barons des municipalités. Certains se représentent, d'autres non. Je pense à Jean-Claude Gaudin, Martine Aubry. Il y a encore une incertitude sur sa candidature. Pour montrer l'importance de cette fonction de maire dans la vie politique, on fera aussi des portraits de maire moins connus dans un documentaire qui s'appelle « Vie de maire ». On va produire avant ça... «
Vie de maire », c'est drôle comme titre.
Voilà, « La vie des maires ».
Non, non, mais on a bien compris. On a tout le monde a pigé le sous-texte.
Et puis, oui, d'ailleurs, vous savez qu'on a un partenariat privilégié avec l'Association des maires de France et on va produire un documentaire qui fera le bilan d'un mandat qui a été assez exceptionnel pour les maires 2014-2020, pardon, qui sera diffusé lors de la séance de clôture du congrès de l'AMF.
Bertrand Delaisle, patron d'LCP, avec qui vous partagez, Emmanuel Kessler, le canal 13 de la TNT, se pose ouvertement la question de quitter la TNT. Et vous-même, qu'en pensez-vous, puisque vous êtes liés, les deux chaînes sont liées?
Oui, absolument. On ne peut le faire qu'ensemble. D'abord parce que c'est une disposition législative qui oblige à ce que notre chaîne soit sur la TNT et je m'en félicite. Et puis ensuite, effectivement, on est ensemble sur le canal 13. Et donc, il n'est pas question que nous quittions la TNT parce que, si vous voulez, la TNT, ça reste encore le seul moyen d'atteindre tous les publics gratuitement, sans collecte de données, sans dépendance, et vous savez à quel point c'est débattu en ce moment vis-à-vis des fournisseurs d'accès à Internet. Et il y a encore plus de 20% de la population qui ne reçoit la télé que par la TNT.
Je vais me faire son avocat, l'avocat de Bertrand Delaisle. Son budget est bloqué à 16,6 millions d'euros par an, hors TDF. Envisage d'augmenter le coût de la diffusion, une augmentation de 500 000 euros sur une facture qui s'élève déjà à 3,5 millions. C'est plus de 20% du budget qui part en frais de diffusion, d'où l'idée de les affecter à la production d'émissions. Vous en avez parlé avec lui, j'imagine.
Oui, bien sûr, et je peux vous dire que effectivement quitter la TNT, ce serait une mauvaise réponse, mais il y a une vraie question, et là on est parfaitement d'accord avec Bertrand Delaisle, qui est celle de l'augmentation possible de nos frais de diffusion. On ne peut pas la supporter, et donc nous travaillons d'arrache-pied actuellement et conjointement avec LCP pour trouver des solutions.
Pour qu'ils fassent baisser les prix. Il proposait également de faire rentrer de la publicité, pas vraiment de la pub pure et dure, mais du sponsoring, des causes nationales. Est-ce que là, vous approuvez ou vous désapprouvez?
Oui, je suis tout à fait favorable parce que effectivement, nous n'avons pas le droit à la pub, nous avons le droit au parrainage et je crois qu'on ne demandera pas l'accès à la pub généralisée, mais par contre, sur des campagnes d'intérêt général, c'est vrai que sur des messages, par exemple, sur la sécurité routière, la lutte contre les maladies, c'est vrai que là, si on pouvait nous ouvrir ce secteur, et peut-être que la loi sur l'audiovisuel serait l'occasion d'un amendement sur ce thème. Là, on est tout à fait d'accord. En effet.
Merci beaucoup Emmanuel Kessler, patron de la chaîne Public Sénat. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
C'était un plaisir. Merci à vous.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture. On va recevoir André Manoukian qui vient nous présenter son spectacle Le Chant du Périnée, oui, au Théâtre de l'Œuvre. Le dossier de presse annonce une conférence psycho-érotique pianotée par André Manoukian. Je ne vous dis que ça. On est déjà dans l'inattendu, mais ensuite, Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis, dans les indispensables, on va vous présenter la saison 5 de Peaky Blinders sur Arte et Netflix avec Margot Barallon et Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux. On en parlera comme vous de la n'avez jamais vu. Ce sera notre spécialiste livre qui en parlera, Nicolas Carreau.
Et tout ça, c'est dans un instant sur Europe 1.